Vous êtes sur RTL. RTL Midi, Bénédicte Tassard.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Voici les titres de ce samedi 28 décembre. Les gares se remplissent pour ce week-end en plein milieu des vacances de fin d'année. Des déplacements difficiles à cause de la grève, 20% de trains supplémentaires sur la ministre Elisabeth Borne en déplacement ce matin sur le terrain pour rassurer les voyageurs. Les vacanciers de Noël sur la route du retour, ceux des derniers jours de 2019 sur le départ. Les routes se remplissent aussi, pic de circulation attendu à 15h, en attendant les premières difficultés, Pierre Collat.
Oui, le trafic est déjà chargé sur l'A6 entre Paris et Lyon, avec des difficultés surtout entre Beaune et Chalon-sur-Saône. Il y a 12 km de bouchons à cause d'une voiture accidentée sur voie de gauche au kilomètre 327. En direction des Alpes, sur l'A43, comptez 2 heures entre Lyon et Chambéry, 3 heures jusqu'à Albertville. C'est deux fois plus que d'habitude. Même chose dans l'autre sens en direction de Lyon. Il y a une cinquantaine de kilomètres de ralentissement répartis sur l'A43.
Pierre Collat, on vous retrouve régulièrement sur l'antenne jusqu'à ce soir. Première édition pour le bac nouvelle version et les épreuves de contrôle continuent dans quelques semaines seulement pour les élèves de première. Les syndicats d'enseignants réclament une annulation. La FCPE demande un ajournement. Premier invité de RTL Midi, le président de cette association de parents d'élèves, Rodrigo Arenas. Beaucoup de questions autour du parricide de Blandec dans le Pas-de-Calais. La famille aurait menti sur les circonstances du meurtre du père par son fils. Les enfants hospitalisés ont besoin de vous. L'association Coucou Nous Voilou les aide à surmonter leur peur des perfusions. Nous serons dans quelques minutes avec Marc Salem, son président. Et puis pour vous mettre l'eau à la bouche, notre chronique de fête, nos régions vous régalent. Guillaume Frixon nous emmènera au cœur de la fabrication des pâtes de fruits. La météo, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Ne parlez pas avec une petite pâte de fruits dans la bouche.
J'ai aucune chance.
On va avoir du mal à se débarrasser de la grisaille par endroits après-midi.
Ce sera le cas en Ile-de-France, en Picardie, dans le Nord ou encore en région lyonnaise et près de la Manche. C'est vrai que cette grisaille, elle a tendance à tenir un petit peu sur toutes ces régions, en Midi-Toulousain aussi. Alors si on a de la chance, ça va se lever et le soleil s'imposera. Un soleil qui s'impose dans le Nord-Est, en Limousin, sur le Poitou-Charentes ou encore vers les régions méditerranéennes. Là, c'est parfaitement levé. Ça devrait peu à peu quand même gagner le reste du pays. Les températures, elles ont baissé. 5 degrés à Langres au meilleur de l'après-midi, 6 à Charleville-Mézières, 9 à Lons-le-Saunier, 10 degrés à Paris, à Angers et au Mans, 11 à Lorient et à Vannes, 13 degrés à Mont-de-Marsan et Biarritz, maximum pour Marseille avec 16 degrés.
Merci Valérie, on vous retrouve à la fin de ce journal. Vous écoutez bien RTL. Merci à tous pour votre fidélité.
RTL Midi.
Se préoccuper du sort des voyageurs en galère depuis 23 jours, depuis le début du conflit sur la réforme des retraites et la grève qui paralyse les transports. Syndicats et opposition accusent le gouvernement de laisser pourrir la situation. Les négociations étant repoussées jusqu'au 7 janvier prochain. Alors ce matin, la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, et le secrétaire d'État aux transports, Jean-Baptiste Djebbari, sont allés faire un tour au Centre national des opérations ferroviaires. Julien Fautra, vous avez suivi cette visite teintée de communication politique.
Oui, la volonté de distiller des messages positifs, les trains qui roulent, les places qu'il reste à pourvoir dans les TGV, bref, occuper le terrain médiatique et dédramatiser autant que faire se peut les conséquences de la grève et les polémiques. Elisabeth Borne qui répond pour la première fois après ses vacances en pleine grève.
J'ai rejoint mes proches pour passer Noël, comme je pense beaucoup de Français. Je vois que un certain nombre de commentateurs ont jugé que ce sujet était passionnant. Ce qui me semble important, vous voyez, c'est que où que je sois, chaque jour, je suis totalement à ma tâche.
Le gouvernement qui maintient sa stratégie de fermeté et qui tente d'opposer les syndicats, l'UNSA et la CFDT d'un côté, cité en exemple par Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État très critique à l'inverse concernant la CGT.
J'observe qu'après avoir combattu les réformes des retraites depuis 20 ans, la CGT nous dit maintenant que le système de retraite actuel est le meilleur du monde. Donc je constate qu'avec la CFDT et l'UNSA, il y a d'autres formes qui peuvent se jouer et que le compromis contractuel me paraît être un syndicalisme plus constructif que celui de l'opposition systématique.
Opération occupation du terrain donc ce matin pour les ministres, alors qu'Édouard Philippe reste très discret et qu'on attend les mots du président de la République sur le climat social. Allocution très attendue, comme le veut la coutume, le soir du 31 janvier. Du 31 décembre.
Dans quelques jours seulement, Julien Fautra pour RTL. En attendant, les voyageurs continuent de galérer, qu'ils aillent au travail, qu'ils veulent sortir profiter du week-end, qu'ils rentrent ou qu'ils partent en vacances. 6 TGV sur 10, 1 Transilien sur 5 en circulation jusqu'à demain soir. Et encore 6 lignes de métro fermées cet après-midi à Paris. La SNCF prévoit également la circulation de 3 à 4 TER sur 10 aujourd'hui et demain. Et une moyenne sur le week-end de 3 intercités seulement sur 10. Quelques 800 000 voyageurs ce week-end dans les 1300 trains promis à la circulation. Alors on part tout de suite gare Montparnasse à Paris, où les quais sont bondés. Mourad Jabari.
Oui, effectivement, la gare est de nouveau grouillante, bouillonnante. Cela fait quelque temps qu'on n'avait pas vu autant de voyageurs pressés, en retard, valises à la main. Et même si les liaisons, les axes principaux sont assurés comme Bordeaux, Rennes, Nantes, quelques déconvenues attendent certains voyageurs.
On a un train qui est maintenu, celui-ci. Par contre, notre train retour vient d'être annulé. On n'a pas de visibilité. C'est les vacances, c'est l'aventure. On est un peu dans l'expectative. On espère seulement effectivement qu'on pourra en revenir.
Franck fait partie des voyageurs qui ont acheté un de ces fameux billets disponibles ce week-end. La SNCF avait pourtant assuré que les retours seraient maintenus. Pascal, lui, a tenté le coup ce matin pour se rendre à l'île d'Oléron, mais il doit changer d'itinéraire.
Il n'y a pas de train, tout a été annulé pour La Rochelle. Donc on va passer par Poitiers. De là, il faut prendre un TER jusqu'à Surgères. Et Surgères, c'est soit le car, soit un taxi.
Oui, parce que l'aventure débute au bout de la ligne. Une fois arrivé sur les axes secondaires, les TER, les trains régionaux, Clémence n'a aucune solution pour rejoindre Tarbes depuis Dax.
On est dans le néant total. On nous a conseillé de contacter une entreprise tierce, comme par exemple un Blablacar, d'essayer de faire du covoiturage parce qu'ils n'ont aucune solution à proposer.
Mais contrairement aux jours précédents, les voyageurs prennent tout cela avec un peu plus de philosophie.
Mourad Jabari, gare Montparnasse pour RTL. Des manifestations se déroulent un peu partout en France en ce moment à l'appel des organisations syndicales pour protester contre cette réforme des retraites. À Paris, ce sera dans un peu moins d'une demi-heure, de la gare du Nord à la place du Châtelet. Rien à voir avec la grève, mais à Ajaccio, l'aéroport a enfin rouvert la nuit dernière, une semaine après les inondations sur les pistes. Tous les vols d'Air Corsica prévus aujourd'hui et demain seront assurés aux horaires initialement programmés, précise la compagnie aérienne. Et c'est tant mieux pour les vacanciers et les commerçants sur l'aéroport. Écoutez la satisfaction de Bernard, qui vend des produits corses au premier étage.
Soulagement, oui. Ça fait une semaine. L'eau était sur la piste, oui. Il y avait 50, 60 cm d'eau sur la piste. On a une semaine de perte. Et une semaine sur un mois qui n'aurait pas dû être mauvais. Tous les passagers sont quand même partis par Bastia. Ça a pris le rythme normal, oui, oui, oui. Les avions sont partis pratiquement à l'heure ce matin. Normalement, ça roule.
Ça roule, Bernard, à Ajaccio, avec Marion Ferrer. On marque une pause et on vous explique pourquoi les élèves de première passent des vacances plus studieuses que d'habitude.
RTL Midi. RTL Midi, Bénédicte Tassard.
Allez, à midi et 39 minutes, on ouvre les cahiers, on rallume les ordinateurs à l'onglet de la page des cours. Les élèves de première préparent leurs épreuves de bac de janvier, les épreuves communes de contrôle continu. Et oui, c'est l'une des nouveautés de la session 2021 de l'histoire géo, des langues vivantes, des maths en techno. C'est le baptême du feu dans quelques jours. Premier invité de RTL Midi, Rodrigo Arenas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la FCPE, la principale association des parents d'élèves. Monsieur Arenas, quelles sont les remontées que vous recueillez auprès de vos adhérents à propos de ces épreuves communes de contrôle continu qui arrivent ?
Alors, c'est pas que les adhérents, c'est aussi les parents, puisque oui. Étant la principale fédération de parents d'élèves, on va évidemment au-delà de nos propres rangs. On ne demande pas des cartes membres VIP pour travailler avec la FCPE. Bah, la première, c'est que maintenant, on va devoir parler des révisions de Noël, puisque beaucoup d'élèves, notamment de première, sont dans des révisions pendant les vacances, alors que même les membres du gouvernement sont en pause pour les vacances de Noël. Donc, pour nos enfants, c'est pas la réalité. Et c'est un stress supplémentaire pour eux dans des épreuves qui, clairement, comme nous disent les enseignants et aussi les chefs d'établissement qui en ce moment dans les conseils d'administration votent des annulations des épreuves de contrôle continu tout simplement, ne sont pas prêts pour les affronter. Donc
c'est
voilà,
tôt.
C'est dans ce cadre-là.
Bah,
disons que c'est pas une question de timing, c'est une question de préparation. C'est-à-dire que, vous savez, c'est un peu comme le sport, quand vous avez des élèves à qui on invite à courir un marathon ou faire des épreuves de physique intensive dans des périodes en plus où le temps est au repos, et ben quand les entraîneurs vous disent que les joueurs ne sont pas prêts, et ben on peut pas les faire concourir courir tout simplement. Donc aujourd'hui, on va risquer des claquages, on va risquer des abandons, on va risquer aussi que ce sont seulement ceux qui sont les mieux préparés et qui sont plus préparés avant le lycée qui vont réussir ces épreuves-là, et les autres, malheureusement, eh ben, ils seront victimes, on va dire, d'une certaine façon, y compris dans des établissements où les enseignants sont en ce moment dans des mouvements sociaux très durs, très forts, et qui n'ont pas préparé les élèves à passer ces épreuves. Ça, c'est une évidence, c'est ce qui nous remonte du terrain, en tout cas.
Alors, Rodrigo Arenas, pour les élèves d'abord, un écrit de 2 heures en histoire géo, 1 heure pour chacune des 2 langues vivantes, des maths aussi en techno, on a envie de vous dire quand même que c'est pas la mer à boire.
Ben, c'est pas la mer à boire peut-être avec vos yeux d'adulte, mais en tout cas pour ce qui concerne les élèves, c'est la mer à boire. Et que ce soit dans les lycées, on va dire, où les élèves sont les plus fragiles, on va dire, parce que les conditions sociales sont les plus difficiles, mais aussi dans les grandes écoles, enfin dans les lycées, j'ai vu un article dernièrement chez un de vos confrères dans le lycée Henri IV, où également les élèves sont dans des tensions extrêmes, et que en fait cette réforme ne satisfait pas grand monde, en tout cas pas les élèves. On les habitue à cette course qui est une course scolaire, alors que notamment en France, en tout cas, l'école, elle est faite pour tous les enfants. Elle est faite pour que personne ne reste sur le carreau, et qu'aujourd'hui on nous explique dans une méthode Coué où tout va bien, madame la marquise, que ce n'est pas la réalité du terrain. Donc on arrive à une situation un peu ubuesque où cette réforme en fait n'est pas faite pour les élèves. Elle est faite peut-être pour les adultes, mais pas pour les élèves.
Mais vous, Rodrigo Arenas, vous, à la FCPE, vous ne réclamiez pas davantage de contrôle continu, et justement la fin de ces épreuves couperait de juin.
Mais on réclamait même, vous savez, une vraie réforme du lycée. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise. La question, c'est qu'une réforme, elle se prépare. Et nous avons dit dès le début que les moyens sur le terrain ne seraient pas disponibles pour la réussite des élèves. Et on se rend compte que dans ce passage en force permanence, réforme après réforme, que la réalité, malheureusement, ne donne terrain. Vous savez, on aurait bien aimé se tromper. Nous, on est des parents responsables. On ne veut pas que les élèves échouent. On ne veut pas que les élèves soient dans des stress. Mais il s'avère que le fait d'avoir de manque de moyens, avec, vous savez, il y a des lycées dans lesquels il n'y a pas d'absence pour remplacer. Donc des élèves qui n'ont pas eu cours pendant depuis le début de la rentrée sur certaines matières. Des lycéens aussi qui ont dû porter plainte au tribunal, notamment dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis, pour être scolarisés dans le lycée comme le droit leur donne. C'est-à-dire qu'on est dans cette logique-là où, vous savez, c'est cet adage où on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Sauf que les œufs, c'est nos enfants, et qu'aujourd'hui, ces œufs-là, ces enfants-là peuvent concerner toutes les catégories sociales, peuvent concerner tout le monde. Et c'est ça aujourd'hui qui est en cause, c'est que le cœur de cette réforme était notamment l'orientation, et que le cœur de cette réforme, c'était de permettre aux enfants de faire le libre choix. Or, il s'avère que ce choix n'a pas été réalisé, puisque, comme vous le savez, les spécialités n'ont pas été à disposition pour tous les élèves partout sur le territoire national, mais surtout, les 54 heures d'orientation qui étaient prévues se sont déguisées en souvenirs, parce que sur le terrain, nous n'avons pas les moyens de les mettre en œuvre. Les enseignants n'ont pas le moyen de les mettre en œuvre, et les chefs d'établissement nous disent, on est en train de faire comme on peut. Donc, vous avez cette réponse ministériel, vous savez, tout se passe bien, tout va bien, et en fait, on va mettre en pratique les meilleures pratiques, c'est-à-dire que c'est les chefs d'établissement qui portent cette réforme-là, et eux sont en train de nous dire, que ce soit en off ou que ce soit en in, qu'ils n'arrivent pas à mettre en place cette réforme, parce que parfois même eux n'ont pas les moyens ou n'arrivent pas à la comprendre dans le détail.
Donc il y a une réforme à marche forcée.
C'est une réforme à marche forcée, c'est une réforme en passage en force et qui ne tient pas compte des réalités de terrain. Donc vous savez, nous on est assez pragmatique, hein, parce qu'on ne raconte pas du vent à la FCPE. Donc on va mettre en ligne un questionnaire dès la rentrée, c'est-à-dire à partir du 6 janvier, qui est en direction de nos adhérents, mais en direction de tous les parents, de ce pays, pour faire les remontées de comment ça se passe la réalité dans le terrain, et on rendra ça public. Parce que entre
ce qui est à la télé,
à partir du 6 janvier, à la rentrée scolaire.
Non mais les résultats, vous rendrez ça public après les épreuves.
Dès qu'on aura traité les informations, est-ce que. Vous savez, nous, on est tous bénévoles à la FCPE, donc il faut traiter l'information. Et il faut à un moment donné donner des choses objectives. Parce que entre ce qu'ils disent sur les plateaux télé et ce qu'ils disent sur le terrain par les parents, je peux vous dire qu'il y a un gap qui ressemble au pont de Millau. Donc tout ça n'est pas sérieux. En tout cas, c'est pas fait pour les enfants. Et encore une fois, vous savez, on est dans le délit d'initié, quoi. C'est encore les parents qui peuvent se payer des profs particuliers, et tant mieux pour ceux qui le peuvent, pour aider leurs enfants, parce que c'est notre job. C'est encore les parents qui sont les mieux aguerris à comprendre comment ça fonctionne, qui vont avoir les gamins qui s'en sortiront le mieux. Donc on ne peut plus continuer à être dans cette situation.
Une augmentation des inégalités, vous dénoncez.
En tout cas, on les organise. D'accord. En tout cas, on les structure, et ce n'est pas de cette façon-là qu'on va s'en sortir. C'est pas le passage en force, c'est pas la méthode Coué qui permettra de résorber ces inégalités-là.
Merci beaucoup, Rodrigo Arenas, d'avoir été invité de RTL Midi et de vos précisions. Je rappelle que vous êtes le président de la FCPE. Merci.
Merci à vous.
Toujours pas d'eau potable au robinet pour plus de 23 000 foyers en Normandie. Sont concernés des communes autour d'Auffay, de Blacqueville, près de Rouen, ainsi que 15 communes de Seine-Maritime, 7 de l'Orne. Si vous êtes concerné, vous avez reçu l'information, les fortes précipitations ont provoqué une érosion des terres et dans l'eau, il y aurait des particules d'argile et de limon. Ne pas boire cette eau, ne pas se brosser les dents, ne pas cuire vos pommes de terre avec. Isabelle est pharmacienne à Fréville, en Seine-Maritime. Elle tente de rassurer ses clients.
Il y a une distribution d'eau à la mairie. Dans toutes les mairies des environs, Ils vont chercher de l'eau. La distribution d'eau est possible.
Et ils vous posent des questions, les gens, sur la qualité de l'eau en pharmacie?
Ben oui, et puis savoir quoi faire, et puis qu'est-ce qu'il y a et tout, mais bon, nous, on n'a aucune information, on ne sait pas exactement pourquoi elle n'est pas potable. Donc,
Mais l'eau, là, elle sort du robinet, elle est sale?
Elle est claire, elle est propre. Non, on ne voit rien, ça ne se voit pas. La mairie est informée, on a des affiches et tout ça, donc on sait qu'elle n'est pas potable, mais à la voir comme ça ne se voit pas.
Isabelle, pharmacienne à Fréville, avec Pierre Collat. On marque une pause et on part dans le Pas-de-Calais faire le point sur le parricide de Blandec et les troublants mensonges de la famille.
RTL Midi, 10h présent.
Info.fr.
RTL Midi, Bénédicte Tassard.
Midi et bientôt 48 minutes sur RTL. Les affabulations d'une famille tout entière pour défendre le fils, mis en examen et écroué pour avoir tué son père avec un fusil de chasse. Une tragédie familiale qui s'est déroulée vendredi dernier à Blandec, dans le Pas-de-Calais. Le père était en train d'étrangler son épouse, affirmaient ses proches, qui évoquaient de la légitime défense. Ils sont allés un peu trop loin dans leur déclaration, Antoine Decarne.
Oui, toute la famille s'était en fait entendue sur une fausse version. Au départ, les enquêteurs avaient des doutes avec des témoignages différents. Et puis ensuite, le médecin légiste n'a trouvé aucune trace de strangulation sur la mère de famille. Alors celle-ci et ses deux enfants, tous trois témoins de la scène, sont revenus sur leur déclaration. Ils maintiennent toutefois qu'une dispute entre la mère et le père, fortement alcoolisée, a bien eu lieu. Tous dépeignent également un climat délétère au sein de la maison et une mère victime de violences conjugales. C'est ce qui aurait entraîné le fils vers un tel acte. Cependant, aucune plainte ni main courante n'a jamais été déposée et difficile donc pour la justice de s'appuyer sur ces déclarations. Cela met fin à l'hypothèse de la légitime défense qui était évoquée au début de l'affaire, même si le fils de 25 ans qui a tiré par deux fois sur son père n'aurait pas prémédité son action. Hier soir, il a été mis en examen, il risque la prison à perpétuité.
Antoine Decarne, l'un des correspondants de RTL dans les Hauts-de-France. Il était déjà en campagne pour les prochaines municipales. Les habitants du Nord ont appris aujourd'hui le décès de l'ancien député communiste Fabien Thiémé. Il avait 67 ans et c'était l'adversaire historique du centriste Jean-Louis Borloo, maire de Marly depuis 2008. Fabien Thiémé, fils de résistant, ancien ouvrier ferroviaire, avait siégé à l'Assemblée nationale de 1988 à 1993. Et puis toujours dans l'actualité communiste, une bonne nouvelle pour la presse, le plan de continuation du quotidien L'Humanité vient d'être validé par le tribunal de commerce de Bobigny. Le titre, fondé par Jean Jaurès, sort donc d'une mauvaise passe de 10 mois de redressement judiciaire. À l'étranger, un effroyable attentat ce matin dans la capitale somalienne de Mogadiscio. Une voiture piégée a explosé, faisant au moins 76 morts et des dizaines de blessés dans un quartier très animé. En ces vacances de Noël, un moment pour les enfants hospitalisés, on les embrasse et on les soutient avec vous, Marc Salem. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Votre association s'appelle Coucou Nous Voilou. Elle existe depuis 5 ans maintenant. Elle vise à améliorer les conditions d'hospitalisation des plus jeunes. Le monde hospitalier, vous le connaissez bien, Marc Salem.
Oui, je connais bien parce que j'ai été pendant 15 ans à l'hôpital Necker Enfants Malades où je m'occupais de la communication mais également de tout ce qui était animation pour les enfants hospitalisés. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert cet univers. Puis ensuite j'ai passé 9 années dans l'association que dirigeait Alain Chabat qui amenait le cinéma dans les hôpitaux. Et puis j'ai fondé en 2015 effectivement ma propre association qui était le prolongement de tout ce que j'avais pu faire pendant toutes ces années.
Et Coucou Nous Voilou, ça aide donc ces enfants à mieux accepter leurs soins, leur séjour à l'hôpital, mais comment ?
Alors on a un projet qui est un petit peu unique, j'irais presque jusqu'à dire unique au monde. Il n'y a qu'un seul pays qui l'a fait, c'est le Brésil. Il faut imaginer un enfant dans sa chambre d'hôpital. Il est perfusé, soit pour une chimiothérapie ou soit pour une perfusion plus classique. Mais en tout cas, il est perfusé et 3 enfants sur 4 environ, à un moment ou à un autre, vont avoir une perfusion. Et nous, on va recouvrir cette perfusion par un boîtier qui sera aux couleurs de personnages célèbres, des super-héros ou les Schtroumpfs ou les lapins crétins ou Titeuf et d'autres. Comme ça, l'enfant va avoir l'impression que le personnage l'aide à guérir, que c'est lui qui lui transmet le médicament qui est dans le boîtier. Et l'enfant accepte bien mieux les soins. Les personnels soignants ont une relation qui s'améliore avec l'enfant puisque celui-ci est plus disposé à recevoir les soins.
Voilà, vous, les abracadabox, vous le voyez déjà, il y a déjà donc des résultats. Combien d'abracadabox ?
On en a distribué presque 10 000 déjà, mais ça coûte très très cher à fabriquer puisque ça nécessite évidemment une fabrication, on va dire, industrielle, critères d'hygiène et de sécurité des hôpitaux. On ne peut pas faire ça comme ça. Donc, on a toujours besoin d'être soutenu pour pouvoir continuer ce projet. Quoi.
Et pour les effets, c'est vraiment, ça calme les enfants?
Ce qu'on peut constater en tout cas, c'est que tout d'un coup, entre voir un pied de perfusion avec une poche, et quand c'est de la chimio, c'est carrément un liquide de couleur verte ou noire, qui n'est pas du tout rassurant, qui est même stressant. Là, tout d'un coup, l'enfant va avoir plutôt quelque chose de joyeux. On lui laisse le choix de choisir la box qu'il veut, donc selon les différents personnages. Donc automatiquement, le soin, l'enfant se l'approprie et le vit beaucoup mieux. Ça reste que quelque chose d'accessoire, mais qui devient finalement assez important.
Alors Marc Salem, vous êtes aussi soutenu, il faut le dire, par de nombreuses personnalités du cinéma, du spectacle. Ils font le job ?
On a effectivement sorti un spot courant novembre avec des artistes comme Harry Habitant, Valérie Bonneton, Frédéric Bell, Philippe Lachaud, et Élodie Fontan, etc. Et ils sont 16 au total à avoir joué le jeu gracieusement. Donc oui, on a des personnalités qui nous soutiennent ponctuellement. Mais en tout cas, voilà, on a réussi vraiment au culot, hein, parce que moi, je ne les connaissais pas. J'ai vraiment remonté les filières, comme un journaliste que vous êtes, pour essayer de parfois de toucher ces personnalités par rapport à leur entourage, etc.
Et pour le grand public alors qui a été touché par cette initiative, comment faire pour vous aider ?
Sur le site internet de l'association, donc coucou nous voilou le tout collé en minuscule .fr, il y a une page pour pouvoir faire un don et un don en ligne. Sinon, vous trouverez également les coordonnées de l'association sur le site si les gens veulent envoyer un chèque. Mais c'est vraiment des dons financiers dont on a besoin parce que les abracadabox, par exemple, pour en fabriquer 3000, il faut environ 20 000 euros. Quoi. Donc,
très bien.
C'est cher.
C'est noté. Coucou nous voilou.fr. Merci beaucoup Marc Salem d'avoir été l'invité de RTL Midi. Merci.
Merci à vous. À bientôt.
RTL Midi. Dans le reste de l'actualité, pas beaucoup de sport ce week-end. Du rugby quand même. Deux journées de top 14 autour de Noël et du jour de l'an. Cet après-midi, Lyon reçoit Bayonne, Brive, le Racing 92 et le Stade français se déplace à Montpellier. Et puis ce soir, à Marseille, rendez-vous sur le ring avec le championnat du monde de boxe et le franco-arménien Arsène Goulanirian qui défendra son titre face au Moldave Bejenaru. Une pause et si vous cherchez une petite douceur pour apporter à vos proches pour les fêtes, Guillaume Frixon a une idée.
RTL Midi.
Carrefour.fr.
RTL. Nos régions vous régalent.
Une petite douceur ce midi dans cette chronique de fête. Direction l'Auvergne et Clermont-Ferrand. Pas de Saint-Nectaire, pas de truffade, pas de potée. Et non, aujourd'hui, gros plan sur une gourmandise fabriquée depuis 1880 à Cruzy, par Cruzy, une entreprise auvergnate. Elle est colorée, elle tient dans votre main et vous pouvez la déguster à n'importe quel moment de la journée. C'est une pâte de fruits. Valérie Quintin adore les pâtes de fruits, vous l'avez entendu.
Bien sûr.
Bonjour Guillaume Frixon.
Bonjour.
On peut s'y poser sans prendre trop de risques qu'en ce moment, le travail ne manque pas, Guillaume.
Oui, dans les immenses ateliers, c'est une centaine de petites mains qui s'activent. Moulées, sucrées, coupées, triées, pesées, emballées des milliers de pâtes de fruits, de marrons glacés et de fruits confits. Roland Gibert est le directeur de l'entreprise.
Nous appelons ça la saison. Nous faisons les deux tiers de notre chiffre d'affaires sur les quatre derniers mois de l'année. Donc c'est vraiment très intense.
Très intense et très savoureux, car ici les pâtes de fruits contiennent entre 60 et 80% de fruits. Océane est à la découpe.
Si vous avez une pâte de fruits à la framboise, comme ceci, vous allez avoir vraiment que de la framboise avec de la pectine, du sucre et du glucose.
La pectine, ça sert à quoi ?
La pectine, ça sert à te faire durcir, que ça reste pas liquide, que ça prenne la forme vraiment pâte de fruits.
Cassis, abricots, fraises, prunes, citrons. Les senteurs embaument l'atelier de Cathy qui emballe un assortiment de pâtes de fruits multicolores à un rythme plus que soutenu.
Oui, on est obligé d'aller très vite parce qu'il y a la boutique où il y a énormément de monde et il y a toutes les commandes qui partent. Donc là, il faut aller vite et il ne faut pas traîner, quoi.
Et donc, qui dit confiseur dit aussi forcément d'autres délices pour garnir nos tables en cette fin d'année, comme par exemple les incontournables marrons glacés et autres fruits confits.
Oui, et ici on ne badine pas avec le fruit confit. Ils estiment à au moins 5 ans le temps nécessaire pour maîtriser parfaitement ce savoir-faire. Car une fois cueilli à maturité, le fruit est blanchi à l'eau bouillante avant d'être plongé plusieurs jours dans différents bains de sirop, de plus en plus sucrés.
Voilà, en fait le procédé consiste à remplacer l'eau qui se trouve dans le fruit par du sucre.
C'est bon pour la santé ça ?
Oh ben, il ne faut pas en abuser, mais sinon c'est excellent. On fait des produits de plaisir, de cadeaux, de partage et on en est très fiers.
Alors près d'un mois est nécessaire pour obtenir le fameux fruit confit. D'ailleurs Alain manipule des fraises et contrairement à moi, lui, il n'a pas forcément l'eau à la bouche.
J'en ai trop mangé, mais donc j'en mange pas trop maintenant. Mais autrement, ouais, j'aime bien. Ouais.
Donc là vous êtes en train de les reconstituer ?
Oui, de les reconstituer, oui. comme ça, là.
À la main.
À la main, ouais, voilà. Une par une, voilà.
À la main, donc, tout comme les pâtes de fruits, il y en a vraiment pour tous les goûts, à tel point que l'entreprise auvergnate voit grand et elle fait voyager ses friandises sucrées à travers le monde.
Oui, exactement. D'ailleurs, le roi du Maroc serait un inconditionnel de ses pâtes de fruits. 15% de la production s'exporte aujourd'hui dans 35 pays. Mais pas besoin d'aller si loin, car dans la boutique de l'entreprise, c'est déjà l'effervescence.
Allez, ça sera tout ?
J'ai acheté des marrons glacés pour offrir et des orangettes pour faire au chocolat.
Les pâtes de fruits et la liqueur.
Et quelle est la saveur que vous préférez ?
Framboise. Voilà, et puis j'aime bien les marrons glacés qui sont très bons et les oranges aussi.
C'est pas très bon pour le régime, ça ?
On s'en fout.
Alors si comme Marie-Françoise, vous voulez profiter pleinement de vos pâtes de fruits, voici un dernier petit conseil de connaisseur avec Roland Gibert, le directeur de Cruzille.
Pour déguster bien une pâte de fruits, il faut d'abord la regarder. Ensuite, on va déguster d'abord une pâte de fruits claire parce que c'est celles qui ont les goûts les plus subtils. Donc ça va être une pâte de fruits de poire, d'abricot. Et après, on va enchaîner avec une pâte de fruits rouges. En terminant peut-être par le cassis ou la cerise qui sont très prononcées.
Votre préféré ?
Moi, c'est la clémentine. Pâte de fruits clémentine.
La clémentine, ça doit être super bon. Merci Guillaume, j'espère que vous allez nous ramener une petite boîte, une pâte de fruits, un petit café. Il sera bientôt 13h. La météo, Valérie Quintin, un petit mot pour demain ?
Demain, ça va être un petit peu comme aujourd'hui. En pire, dans les deux cas, on aura un petit peu plus de grisaille et on aura encore un petit peu plus froid. Les températures seront négatives sur pas mal de régions au réveil, jusqu'à moins 4 degrés attendus dans les Vosges. Il fera 0 à Paris ou à Lille encore au lever du jour. On va avoir de la grisaille un petit peu partout le matin. En principe, du soleil, donc l'après-midi, excepté en Méditerranée, on va avoir un petit système. Il va y avoir un débordement, du coup, nuageux entre les Pyrénées-Orientales et la région PACA, mais rien de très sérieux, pas de pluie en tout cas. Les températures dans l'après-midi iront de 3 à 16 degrés entre Lyon et Saint-Girons, comptez 7 degrés à Paris, à Bourges et à Boulogne-sur-Mer.
Merci Valérie.